Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Le Japon vient d'avoir des élections et entame un nouveau chapitre de son histoire. Shigeru Ishiba, le chef du gouvernement conservateur, a été reconduit à la tête de l'exécutif, mais il ne dispose que d'une majorité très fragile pour piloter le pays dans une séquence de grande incertitude géopolitique. La perte de la majorité du parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, ouvre une zone de turbulence qui pourrait avoir une influence sur l'économie et le positionnement international de l'archipel, peu habitué à ce climat d'inquiétude. Au-delà, la quatrième économie du monde risque un choc externe. Ce choc porte le nom de Donald Trump. Longtemps passé pour un modèle de stabilité politique, le Japon est entré dans une zone incertaine à un moment qui n'est pas des meilleurs. L'économie atone, inflation, stagnation des salaires, affaiblissement du yen et un Premier ministre en difficulté donc qui aura du mal à résister aux exigences de Donald Trump, dont le premier mandat s'était finalement passé sans trop d'accrocs. Qu'en sera-t-il du second? C'est ce que nous allons voir avec nos invités depuis Tokyo. Valérie Niquet, directeur du programme Japon à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur, entre autres, du Japon en 100 questions, dont une nouvelle édition est à paraître en janvier prochain aux éditions Talendier. Bonjour Valérie Niquet.
Bonjour.
Et en studio, Guy Bourg-Delamotte, professeur de sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon, autrice de La démocratie au Japon aux éditions ENS, École normale supérieure, et Le Japon, un leader discret aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons la chance d'avoir à Paris avec nous en studio Toru Yoshida, professeur de sciences politiques à l'université d'Oshisha à Kyoto. Bonjour.
Bonjour.
Pour la première fois en 15 ans, donc, la coalition au pouvoir au Japon a perdu sa majorité au Parlement. Le Parti libéral-démocrate a subi l'une de ses plus lourdes défaites électorales. Comment est-ce qu'il faut analyser les résultats de ces élections législatives d'octobre dernier? De quoi sont-elles le résultat, Toru Yoshida?
Oui, alors la dissolution a été décidée le 9 octobre et l'issue du scrutin a donné que le parti du gouvernement, c'est-à-dire le Parti libéral-démocrate, et le partenaire de la coalition, le Parti bouddhiste Kometo, ont perdu la majorité. Et avant l'élection, ils avaient, avec les deux partis, ils avaient à peu près 270 sièges, qui est tombé à 215 sièges. Donc on a trouvé un parlement minoritaire, un hang parliament, comme on dit en anglais, comme en France d'ailleurs, et parmi ces 465 sièges, la majorité oblige 233 sièges, et donc c'est devenu un parlement minoritaire. Donc pour que le nouveau gouvernement fait passer des nouveaux politiques, ou même aussi le budget,
oui,
ils auront besoin de la collaboration de partis d'opposition.
Alors, qu'est-ce que les électeurs ont voulu dire à travers ce scrutin et mettre finalement en difficulté donc le parti de Shigeru Ishiba? Votre commentaire, Valérie Niquet?
En fait, le Parti libéral-démocrate a souffert de plusieurs éléments. Le premier, c'est une série de scandales sur le financement, pour simplifier, le financement des parlementaires, qui a été beaucoup repris dans la presse, qui a augmenter en quelque sorte le degré de méfiance à l'égard du pouvoir politique, d'une sorte de lassitude qui s'ajoute à ce que vous avez mentionné au début, c'est-à-dire des problèmes économiques qui touchent la population. Et effectivement, tout ceci a créé un climat de mécontentement à l'égard du parti au pouvoir qui a abouti à ce vote sanction. Par ailleurs, le taux de participation était assez faible. Et ce qui se passait habituellement au Japon, c'est que ceux qui votaient étaient plutôt des personnes plus âgées, en général favorables au PLD, et que là, il semble qu'un certain nombre d'électeurs se soient manifestés pour au contraire sanctionner le PLD au pouvoir avec des très faibles interruptions depuis les années 1950. Donc effectivement, c'est un bouleversement important à la fois dans l'opinion publique et dans la manière dont elle s'est exprimée au cours de ce vote.
Alors un bouleversement, Guy Bourg-Delamotte, la société japonaise est très libérale avec une forte culture du travail et une inflation importante. Est-ce que ce vote est d'une certaine manière aussi une remise en question du modèle capitaliste japonais ?
C'est un modèle libéral, mais enfin un modèle libéral assez proche du nôtre, hein, somme toute. C'est-à-dire que c'est un modèle libéral qui est intermédiaire un petit peu entre l'image qu'on peut avoir du modèle libéral anglo-saxon et le nôtre. Donc c'est quand même un modèle libéral qui est soucieux d'avoir qu'il y ait une protection sociale importante, qui a des filets de sécurité, enfin qui est tout de même Là, en fait, et puis on parle d'inflation là, en ce moment, mais il faut bien voir que pendant 20 ans, le Japon était dans une situation de déflation. Et en fait, c'est cette situation de déflation qui a beaucoup pesé sur la croissance et dont le Japon n'a pas réussi à sortir. Et là, l'inflation qu'on voit n'est pas vraiment accompagnée d'une augmentation des salaires, ce qui pose un problème pour le niveau de vie des gens. Donc, ce n'est pas tant le modèle capitaliste en lui-même ou le modèle, disons, socio-économique lui-même qu'un problème de société. C'est-à-dire, c'est vraiment le vieillissement de la population qui conduit à un ralentissement économique et donc à des difficultés qui se prolongent.
Alors, je me tourne vers vous, Toru Yoshida, parce que vous partagez ce que Guy Bourdelamotte vient de dire. Après ça, ce sera intéressant d'aborder la question démographique qui fait partie des sujets.
Oui, tout à fait. Cette élection était une botte sanction. Deux choses, c'est-à-dire que comme Valérie Niquet avait évoqué, il y a eu cette affaire de caisse noire, dite caisse noire, c'est-à-dire il y a des financements occultes et qui n'avaient pas été déclarés par les membres parlementaires du PLD. Donc c'était une botte, l'opinion publique a été révoltée contre ce fait. Donc il y a eu une première sanction et deuxième sanction, c'est le problème de pouvoir d'achat. Et bien que le Japon a eu longtemps dans une situation de déflation et l'inflation était à l'ordre de 3%, l'année dernière, en 2023. Donc, ce n'est pas, si on compare avec les autres pays, certes, ce n'est pas un taux très élevé, mais ça résulte à une pouvoir d'achat et le salaire réel était en baisse pendant deux ans, depuis 2022. Donc, c'était une porte sanction économique envers le parti de gouvernement, certes. Et lors de l'élection, le grand gagnant de l'élection, c'est le Parti démocrate du peuple. C'est un parti d'opposition qui a été fondé par des dissidents de partis démocrates, c'est-à-dire le parti de centre-gauche, et il a quasiment quadruplé ses sièges. Et leur programme, c'était la réduction de taxes et de faire monter le niveau d'imposition, c'est-à-dire ça, ce qui fait le plus dans le pouvoir d'achat, et ce qui a très bien marché, qui a fait monter ses sièges, être maintenant qui est un joueur important, car en ce moment, c'est le PLD et cette partie démocrate du peuple qui fait une partie de coalition, qui essaye de faire un programme ensemble avec le parti de gouvernement.
Alors, approfondissons un tout petit peu le programme du Parti démocrate du peuple. Quel rôle est à attendre de ce parti au sein du Parlement aujourd'hui au Japon ?
Alors, on ne sait pas encore, c'est un phénomène assez nouveau pour la politique japonaise, que c'est un gouvernement minoritaire, et de plus de ça, donc, ils ont besoin de la collaboration des partis d'opposition, et pour le moment, c'est le Parti démocrate du peuple qui a la clé en main si le gouvernement Ishiba tombe ou non.
Alors, réforme fiscale en vue, Toru Yoshida ?
Tout à fait.
On en est sûr ?
Et pour le moment, d'après les dernières informations, entre le PLD et le Kometo et le Parti démocrate du peuple, il y a eu un accord pour la réforme fiscale qui va certainement augmenter la recette des ménages. Mais d'autre part, il y a un manque de recettes à ce moment-là. Donc, on ne sait pas comment on va combler cette manque dans le déficit budgétaire. Et que le travail commence cette semaine. Et on verra comment ça se passera.
Oui. C'est ça, le début de la session.
C'est le début de la session, comme le dit Guy Bourdelamotte. Valérie Niquet, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais simplement dire que la question de la baisse de la valeur du yen a joué aussi un rôle important dans cette question de pouvoir d'achat, parce qu'évidemment, ça a considérablement augmenté le prix de tout ce qui est importé, à commencer par l'énergie, mais pas uniquement, et que ça pèse aussi dans la perception au Japon d'un sentiment, en fait, je dis peut-être pas de déclassement, j'irai pas jusque-là, mais enfin, cette idée. La preuve, d'ailleurs, c'est cet afflux massif de touristes au Japon en raison de la faiblesse de la valeur du yen, et tout ceci crée une atmosphère ou l'impression que le Japon n'est plus ce qu'il était, en quelque sorte, que les Japonais ne sont plus au sommet et pouvant voyager facilement, envoyer leurs enfants éventuellement étudier à l'étranger, et le renchérissement, encore une fois, du coût d'énormément de biens importés.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, le Japon n'est plus ce qu'il était, débat ici en studio. Qu'est-ce que l'on peut dire des priorités du Japon aujourd'hui en interne, d'une certaine manière? Quelles sont les grandes questions qui se posent à la société japonaise, Guibourg de la Motte?
Cette question de la valeur du yen est un problème. Et puis, mais enfin, ça, c'est vrai que c'est conjoncturel, donc c'est assez compliqué d'y remédier. Enfin, Abe Shinzo avait cherché à l'obtenir, cette baisse de la valeur du yen. Et donc, ça dit bien que le Japon tout seul a du mal à agir sur sa monnaie. Mais le grand problème de société, c'est le vieillissement de la population. Qui pèse énormément sur l'économie, bien sûr. Et là aussi, c'est très difficile d'agir dessus. En fait, c'est-à-dire, le gouvernement a essayé de multiples politiques sociales et puis favoriser la productivité au travail pour que les couples aient plus de temps. Mais il semble que, structurellement, les gens aient moins envie de faire des enfants. Les gens se marient plus tard. Les femmes sont peut-être contentes d'avoir plus d'autonomie aussi. Et ça aboutit, comme il n'y a pas de naissance hors mariage, le recul de l'âge du mariage, en fait, mécaniquement, et puis la diminution du nombre de mariages, mécaniquement, en fait, fait baisser le nombre de naissances. Et c'est vrai qu'une sorte de modèle s'installe où on a moins d'enfants que par le passé. On est dans des familles monoparentales, enfin, monoparentales parfois, mais enfin aussi deux parents avec un seul enfant. C'est ce qui devient finalement la norme, voire pas d'enfants, en somme toute.
Votre commentaire, Toru Yoshida, puisque vous êtes...
Oui, tout à fait. Je pense que l'alpha et l'oméga du problème sociétal au Japon, c'est le déclin démographique. Parce que d'ici là, en 2060, on perdra 30% de travailleurs actifs. Et en 2060, 40% de la société sera des seniors, sera composée des seniors. Et ce qui pose beaucoup de problèmes économiquement aussi, sur le territoire, l'aménagement du territoire aussi. Et ça serait une pression aussi dans la sécurité sociale. Pour les pensions, par exemple.
Les pensions de retraite.
Tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment le problème. Mais, comme vient d'évoquer Guibourg de la Motte, c'est vrai qu'on a, les derniers gouvernements, on en fait beaucoup, on en dépensait beaucoup pour contrer ce déclin démographique, mais qui n'aboutit pas.
Une politique familiale, vous voulez dire.
Oui, une politique familiale. Et le budget de la politique familiale est monté à peu près à 2% du PIB, ce qui est un peu la moyenne parmi les pays d'OCDE. Mais ce qui n'aboutit pas à aucun résultat pour le moment.
Alors, on va parler immigration. Où en est le débat aujourd'hui?
Alors, officiellement, le gouvernement japonais n'a pas eu de politique d'immigration pour le moment. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des stages qui viennent principalement de pays d'Asie, qui peuvent rester pendant 3 ans. Mais qui n'est pas renouvelable et puis qui n'est pas permis d'accueillir leur famille sur le territoire. Et à partir de l'année prochaine, on a eu cette réforme sur la loi dite de l'immigration, d'accueil des étrangers, où certains peuvent rester pendant 5 ans. Et si le métier qu'ils fassent soit important et qu'ils n'ont aucun dossier, qu'ils peuvent renouveler pour rester au Japon après.
Donc 5 ans, on passe de 3 à 5 ans. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience de l'urgence qu'il y a à trouver une solution et à peut-être procéder à des réformes plus importantes, Toru Yoshida?
Oui, mais le problème, c'est l'opinion publique, parce que quand on fait des sondages d'opinion, par exemple, 60% disent qu'ils sont favorables à l'accueil des travailleurs étrangers, mais d'autre part, 60% disent qu'ils ne peuvent pas d'immigration massive pour combler le déclin démographique. Donc, c'est vrai que les étrangers restent comme un travailleur dans la société japonaise, mais beaucoup de Japonais ne pensent pas accueillir des habitants étrangers au Japon, surtout quand beaucoup de Japonais regardent ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis par les médias, seulement par les médias, et tous ces problèmes d'immigration qui posent dans la société fait quand même un peu peur des Japonais.
Oui. Le Japon n'en veut pas pour lui. Valérie Niquet, votre commentaire?
Oui, mais ce vieillissement de la population et le manque de main-d'œuvre se ressent d'une manière très quotidienne maintenant au Japon. Et particulièrement depuis le Covid, il y a eu comme une sorte de basculement d'une manière qui est en fait peut-être un peu difficile à expliquer d'une manière aussi rapide. Mais maintenant, on voit très bien que dans tous ces petits supermarchés, supérettes qu'on appelle convenience store ou konbini en japonais, ouverts 24 heures sur 24, et bien aujourd'hui, le nombre d'employés était fortement réduit. Il y a des files d'attente, des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, d'une manière très directe, on voit aujourd'hui au Japon et d'une manière rapide surtout, à quoi aboutit dans la vie quotidienne le manque de main-d'œuvre au Japon, même si effectivement on ouvre un peu plus à l'immigration de travail, comme ça vient d'être indiqué, le Japon n'est pas prêt à accueillir massivement, mais on le voit aussi dans les campagnes par exemple, on a aussi un manque de main-d'œuvre et on a une désertification des campagnes qui est très accélérée.
Alors, Guy Bourdelamotte, vous souhaitez rajouter quelque chose où on passe et on glisse tranquillement mais sûrement sur les questions géopolitiques?
On peut glisser en effet, hein. C'est vrai que le constat est bien dressé là, et dans les combini d'ailleurs, on voit cette main-d'œuvre étrangère, c'est là qu'elle se réfugie, enfin elle est apparue, comme le disait Valérie, nickel, pendant la crise sanitaire beaucoup, enfin, ou en tout cas tout de suite après, dès que le Japon s'est rouvert, on a vu, effectivement c'est frappant de voir à quel point la main-d'œuvre progressivement se fait plus immigrer, disons, que par le passé.
Alors, comment est-ce que finalement, aujourd'hui, on développera davantage dans la deuxième partie de l'émission, on en aura plus le temps, il nous reste 3 minutes avant la fin de cette première partie, comment le Japon se prépare-t-il au retour de Donald Trump, Toru Yoshida? Quelle a été la... Voilà, qu'est-ce qui s'est dit dans les...
Oui, alors, ce qui est, par exemple, qui est très révélateur, c'est que la dernière semaine, il y a eu le sommet de G20 au Brésil. Et à ce moment-là, le tout nouveau Premier ministre Ishiba était sur place et qu'il avait songé de rencontrer Donald Trump aux États-Unis. Et ce qui a été refusé par le nouveau...
Le futur président
américain.
Enfin, le président élu, en tout cas.
Oui, le président élu. Et ça raconte beaucoup de choses, parce que si on se met à la place de Trump, il n'y a aucun intérêt de recevoir un premier ministre japonais qui soit très instable dans son pays et qu'au jour au lendemain, le gouvernement pourrait tomber. Donc, il y a déjà une relation un peu instable qui se met en place pour le moment entre les deux pays.
Et on se souvient que Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais, avait été le premier dirigeant à se rendre à Washington pour saluer Donald Trump dans la version 1.0 de Donald Trump. C'était en 2016, Toru Yoshida.
Tout à fait. Donc, le Premier ministre Abe, qui était Premier ministre entre 2012 et 2020, et entre Trump, ils s'entendaient très bien. Il y avait dans leur personnalité, il y avait une bonne compatibilité entre ces deux hommes politiques, et ce que faisait donner un peu la stabilité entre les deux pays. Mais par contre, Ishiba, qui est une personnalité assez très différente de Abe, qui est quelqu'un d'honnête certes, mais qui est un peu raide dans sa personnalité, donc on va voir comment serait cette chimie entre les deux leaders.
Alors, justement, je vous garde jusqu'à la fin de cette première partie d'émission. Comment est-ce que la population japonaise voit précisément cette instabilité politique, retour de Donald Trump? Est-ce que l'inquiétude est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2016?
Oui, certainement, parce que c'est l'imprévisibilité qui règne entre ces deux pays, soit pour la politique interne et aussi extérieure. Et c'est vrai que sous Biden, le Japon avait une sorte de prévision beaucoup plus facile à prédire. Et bien que le gouvernement Kishida avait décidé de doubler son budget de défense sous la pression exactement de l'administration Biden, et je pense que ça se suivra aussi ce Trump avec des deals qu'il va nous demander.
Et ce qui sera intéressant, c'est de voir, on n'a peut-être pas le temps de développer beaucoup, si la question de la militarisation, bien sûr, mais le pacifisme japonais, l'article 9 de la Constitution, est-ce qu'on peut imaginer un débat au Parlement dans les prochains mois, dans les prochaines années?
Oui, alors il est vrai que l'opinion publique a peur massivement de la Chine en ce moment. Et avec la crise taïwanaise, qui personnellement je ne pense pas, mais comme Kishida avait dit, le Taïwan pourrait être l'Ukraine, la situation en Ukraine, au Japon. Et donc l'opinion publique, dans la tendance, est plutôt favorable à une augmentation de budget de défense.
On poursuivra surtout ces sujets dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Toru Yoshida, avec Valérie Niquet, qui est avec nous par téléphone depuis Tokyo, et Guy Bourdelamotte après le journal. À tout de suite.
Vous écoutez RFI Géopolitique. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur le Japon, nous retrouvons nos invités depuis Tokyo, Valérie Niquet, directeur du programme Japon à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, et auteur du Japon en 100 questions, dont une nouvelle édition est à paraître en janvier prochain chez Talendier. Guibourg de la Motte, professeur de sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon, autrice de La démocratie au Japon et Le Japon, un leader discret. Et Toru Yoshida, professeur de sciences politiques à l'université d'Oshisha à Kyoto, que nous avons la chance d'avoir à Paris avec nous. Guibourg de la Motte, on a terminé la première partie de l'émission en évoquant alors le premier ministre japonais qui était au sommet du G20 au Brésil, qui n'a pas pu rencontrer Donald Trump. On se rappelle qu'en 2016, Shinzo Abe, le premier ministre d'alors, s'était précipité à Washington pour rencontrer le président élu. Quelques mots sur la personnalité de Monsieur Ishiba.
Oui, Monsieur Yoshida disait que le Premier ministre, Monsieur Ishiba, était assez raide. Et c'est vrai qu'il est assez raide, et c'est ce qui contribuait en fait à le rendre assez populaire dans l'opinion publique il y a 2-3 ans. Et c'est qu'il avait une espèce de franc-parler, une image de réformateur. Et ça, c'est ce qui le rendait impopulaire au sein du Parti libéral-démocrate. Et là, dans ces élections, il les a remportées de justesse au sein du Parti libéral-démocrate, en ayant un bon soutien, puisqu'il y avait 2 collèges électoraux de la partie des élus locaux du Parti libéral-démocrate, mais en ayant toujours peu de soutien du côté des élus nationaux. Donc c'est un peu par accident qu'il est devenu Premier ministre, mais l'opinion s'est détournée de lui, parce que depuis le PLD étant pris dans les scandales, l'opinion a rejeté le PLD. Donc M. Ishiba se trouve dans cette situation difficile où en fait il n'est pas tellement appuyé par son parti parce qu'il a cette personnalité un petit peu raide justement et qui n'est pas davantage soutenu par l'opinion là maintenant. Il a un taux de soutien qui est assez faible. Et donc c'est vrai qu'on se demande comment ça va. On voit mal, alors que M. Abe avait beaucoup d'entre-gens. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'intelligence humaine, disons M. Abe. Il négociait très très bien avec les membres de son parti et donc avec Donald Trump, il a eu un savoir-faire extraordinaire en fait. Il a su le prendre. Il lui a fait cadeau d'un club de golf à 4000 euros, laqué or, je ne sais quoi. Donc c'est vrai que Monsieur Ishiba, qui est beaucoup plus austère dans sa personnalité, très rigoureux, on ne voit pas bien comment il peut tirer avantage, disons, de la situation comme Monsieur Abe avait su le faire.
Et la fragilité, finalement, politique de Monsieur Ishiba génère des inquiétudes, Toru Yoshida, quant à la relation qu'il va avoir avec Donald Trump et surtout comment il va pouvoir éventuellement rétorquer aux mesures qui s'annoncent venant du président élu une fois qu'il sera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain.
Oui, on ne sait pas encore d'ailleurs à ce moment-là si Ishiba restera Premier ministre. C'est tout l'inquiétude. En tout cas, concernant Ishiba, il a plein d'idées. C'est quelqu'un, il est qualifié comme un évangéliste et il a plein d'idées, que ce soit sur le plan externe ou interne. Et par exemple, il avait évoqué cette idée d'avoir de l'OTAN version Asie qu'il avait délaissé avec les élections. Mais tout le paradoxe, c'est qu'il a plein d'idées, mais il n'a pas de ressources parce qu'il n'a pas de soutien dans son parti. Et il aura mal à mettre en œuvre, c'est un parlement minoritaire, il faudrait avoir des concessions avec les partis d'opposition, donc c'est tout un problème, et puis il n'aura pas de sortie pour cet dilemme structurel, disons, que le gouvernement a dans sa poche.
Alors Valérie Niquet, l'arrivée le 20 janvier prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça va être des mesures commerciales particulièrement difficiles pour la Chine, avec une augmentation très substantielle des droits de douane. On se concentre beaucoup sur la Chine, mais il est vrai aussi que l'impact sur le Japon va être réel, dans la mesure où les relations entre la Chine et le Japon, les relations commerciales, sont très importantes, Valérie Niquet.
Oui, effectivement, ce sont deux partenaires totalement interdépendants d'un point de vue économique. Le Japon est très important pour la Chine aussi, en dépit des tensions dont on parle régulièrement. Et d'ailleurs, il y a eu récemment, à l'occasion de ce sommet en Amérique du Sud, une rencontre entre M. Xi Jinping et le Premier ministre japonais Ishiba, qui, semble-t-il, ne s'est, entre guillemets, selon ce qu'on en dit, pas mal passé, dans la mesure où les deux ont amorcé l'idée d'avoir une relation gagnant-gagnant en fonction de leurs intérêts réciproques. Donc on sent bien que face à l'arrivée de Donald Trump qui inquiète tout le monde, y compris d'ailleurs les Japonais d'un point de vue commercial aussi, hein, un peu comme l'Europe, le Japon craint d'être confronté à des mesures protectionnistes américaines sous Trump qui ne l'épargneraient pas plus que l'Europe ne serait épargnée. Et donc on sent une volonté de la part du Japon et du Premier ministre, mais pas lui uniquement, du pouvoir politique au Japon, un consensus qui serait de tenter d'apaiser les relations avec les grands partenaires du Japon, que ce soit la Chine, et évidemment il y a des tensions très fortes sur toute une série de sujets qui ne sont pas réglés, mais également on sait que les relations avec la Corée du Sud se sont beaucoup améliorées. Le Japon est très investi en direction de l'Asie du Sud-Est, et où il est très présent également, vers l'Europe et aussi. Donc cette idée de tenter de créer des filets de sécurité entre guillemets en apaisant les relations avec les voisins avec lesquels c'est le plus difficile et d'un point de vue économique en renforçant les liens avec les grands partenaires traditionnels du Japon pour tenter de faire face à cette arrivée de Donald Trump aux États-Unis en gardant à l'esprit toutefois que pour le Japon la relation première et essentielle à tous les niveaux et notamment au point de vue de la sécurité c'est évidemment les États-Unis ce qui impose de faire des concessions.
Alors justement, Guy Bourdelamotte, qu'est-ce que l'on peut dire du bilan de Joe Biden dans sa relation avec le Japon ? Il y a des accords, alors bien sûr économiques, mais aussi sécuritaires qui ont été signés. Je pense l'accord de coopération trilatérale en 2023 avec la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis. Les choses se sont beaucoup consolidées dans la relation entre les États-Unis et le Japon pendant cette période Biden ?
Oui, les choses se sont consolidées. En fait, finalement, ce qui avait été mis en place sous la présidence Trump avait assez bien convenu au Japon parce que ce discours de fermeté face à la Chine, porté par quelqu'un d'autre, disons pas le Japon, c'était assez confortable et donc ça a été bien reçu. Et le Japon a mis en place, Abe Shinzo, toutes sortes de formules minilatérales de coopération qui ont été poursuivies par Joe Biden, donc le Quad notamment, et puis ce rapprochement avec la Corée du Sud.
Le Quad, on rappelle juste.
Coopération quadrilatérale de sécurité avec l'Australie, l'Inde, le Japon et puis les États-Unis, auxquels Joe Biden a donné beaucoup d'ampleur. Et puis une prolongation aussi des impulsions qui avaient été données sur le plan de la sécurité économique, donc qu'a conforté Joe Biden en accord avec en lien avec le Japon, la Corée du Sud, Taïwan également. Donc ces initiatives, en fait, Joe Biden n'a pas changé la trajectoire amorcée par Donald Trump. Et donc le partenariat n'a fait que se renforcer entre M. Kishida et M. Biden. Mais il faut reconnaître que de toute façon, les Japonais s'accommodent en fait de la présidence qu'ils ont face à eux. En fait, il semblerait jusqu'à présent, en tout cas. On verra en effet comment ça se passera avec M. Ishiba. Mais...
Toru Yoshida, vous partagez ce que vient de dire Guy Bourdelamotte. Après ça, j'aimerais bien qu'on aborde les questions de l'accord quinquennal qui a été signé en 2022. Mais je vous laisse répondre et peut-être ajouter quelque chose.
De toute façon, le Japon n'a pas de choix parce qu'il est très dépendant militairement et sur la sécurité avec les États-Unis. Et il faut s'accommoder avec. Et puis, d'autre part, le Japon est très dépendant économiquement envers la Chine. Mmh. C'est-à-dire que la situation la plus néfaste, en tout cas au Japon, ça serait un Trump qui serait plutôt accommodant avec la Chine, ce qui est improbable pour le moment. Mais si la situation se dit que les États-Unis et la Chine s'approche pour un deal, ça serait une situation la plus épouvantable que le Japon va connaître.
Valérie Niquet, le nouvel accord quinquennal signé en 2022, selon les termes de cet accord, Tokyo verse près de 2 milliards de dollars par an pour compenser le coût de la présence de 54 000 soldats américains dans l'archipel, soit une hausse de 5% par rapport à la période précédente. Donald Trump exige le double.
Oui, effectivement, mais les Japonais s'attendaient à ces exigences américaines. On verra ce qu'elles seront une fois que Donald Trump sera véritablement au pouvoir. Et sans doute que les Japonais négocieront, essaieront de négocier pour que face à une demande d'augmentation trop importante, eh bien, les exigences baissent un peu. Mais on va être effectivement dans la négociation sur ce que les Japonais sont prêts à payer en plus. Ça peut...
Il y a une petite coupure, Guy Bourdelamotte. Avec Valérie Niquet.
Oui, ce qu'on a vu la dernière fois, en fait, ce qui est pratique, c'est que cet accord est quinquennal. Monsieur Trump est élu pour 4 ans. Donc, somme toute, là, ce qui va arriver, ça va être la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va arriver à la fin de la durée de validité de cet accord et quand il faudra le renégocier.
En 2027.
En 2027. Et ce qu'a fait, somme toute, monsieur Abe la dernière fois, c'est qu'il a tout simplement repoussé l'échéance. Et donc, aucun accord n'a pu être trouvé avec Donald Trump. Et finalement, c'est avec Biden qu'un accord a été trouvé. Et donc, un accord qui était, selon des termes, plus favorable au Japon.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Toru Yoshida, il y a aussi la question du doublement du budget de défense. Mmh. Ça, c'est une responsabilité qui va incomber, s'il est toujours là, comme vous le dites depuis le début de cette émission, le Premier ministre Shigeru Ishiba. Donc, doubler le budget de défense au cours des 5 prochaines années. Alors, doubler, oui, ça, c'est vu du Japon. Et la question qui se pose est de savoir si ça va suffire à Donald Trump. C'est une inquiétude aussi.
Tout à fait. Et je pense que personnellement, le timing n'était pas bon. Si, par exemple, Ishiba prenait la décision sous l'administration Trump de doubler le budget, ça aurait été un élément de négociation qui pouvait se faire. Mais ça a été pris auparavant. Donc, le timing n'était pas très opportun. Et d'autre part, concernant ces présences des troupes ou des soldats américains au Japon, je pense bien à ce qu'on parle, en tout cas à Tokyo, c'est que certainement, peut-être, le nouvel administration Trump demandera plus de contributions pour compenser le coût lié à ces bases. Par exemple, à Okinawa, c'est l'île qui se trouve dans le sud de l'archipel, et 70% des bases américaines se concentrent sur l'archipel. Et il y a une dépense assez importante de la part du gouvernement japonais pour compenser tous les coûts qui est lié à ces bases. Par exemple, Trump pourrait demander une contribution plus pour garder les bases américaines sur l'archipel. Oui.
Alors, Valérie Niquet, je sais qu'on vous a récupéré, on a un petit peu avancé dans le débat et dans la question de défense côté japonais. Parmi les autres inquiétudes du Japon, je vais avancer un tout petit peu les sujets géopolitiques, c'est la Corée du Nord. Alors, les Japonais sont peut-être moins inquiets que la Corée du Sud, mais tout de même, donc Corée du Sud inquiète en raison d'une éventuelle tentative de Donald Trump de renouer un dialogue avec la Corée du Nord. Pour le Japon, l'inquiétude est très forte également, Valérie Niquet.
Oui, alors la situation dans la péninsule coréenne est un sujet de très grande inquiétude au Japon, et notamment avec cet envoi de troupes, ce rapprochement militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Beaucoup d'experts au Japon s'inquiètent du fait que la Corée du Nord pourrait se sentir soutenue implicitement par la Russie et peut-être être tentée par des actions, en tout cas des risques de déstabilisation en Corée du Sud, des risques de conflits même dans la péninsule coréenne, sachant que la Corée du Nord, d'une manière très régulière, fait des essais de missiles. Le dernier, un des plus longs missiles intercontinentaux réussis de la part de la Corée du Nord, dont on pense qu'ils ont peut-être reçu une aide de la part de la Russie pour améliorer leur performance. Donc la situation dans la péninsule coréenne inquiète fortement les experts, les spécialistes des questions de défense au Japon. Le point positif, c'est que les relations entre la Corée du Sud, depuis les dernières élections en Corée du Sud, qui a mis au pouvoir un président plus favorable à un rapprochement stratégique et à tous les niveaux avec Tokyo, les relations entre la Corée du Sud et le Japon se sont considérablement renforcées. Donc ça stabilise un peu cette alliance trilatérale, États-Unis, Corée du Sud et Japon, face à des risques venant de la Corée du Nord, mais c'est un vrai sujet d'inquiétude. Taïwan est un sujet d'inquiétude, mais la péninsule coréenne suscite beaucoup d'interrogations, la manière dont les choses pourraient évoluer, et évidemment, cette idée d'un rapprochement ou d'une nouvelle rencontre entre Trump et Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, est regardée d'extrêmement près à Tokyo.
Alors, renforcement des relations avec la Corée du Sud, Guy Bourdelamotte, c'est un travail de longue haleine. La hache de guerre n'est pas non plus complètement enterrée entre la Corée du Sud et le Japon, même si, voilà, comme le disait Valérie Niquet, les choses se sont bien améliorées.
Le problème, c'est en effet que les relations entre la Corée du Sud et le Japon sont très contingentes de la politique intérieure sud-coréenne. Donc là, le président, effectivement, a fait un gros effort de rapprochement avec le Japon, mais l'opposition, et il y a des alternances très, très régulières en Corée du Sud, si elle revient au pouvoir, elle retombera sur ses réflexes habituels. Et les élections sont bientôt l'année prochaine, je crois. Ce que cherchent à faire, en fait, les diplomates, c'est à routiniser la relation et à l'ancrer dans des habitudes de travail très régulières, comme avec les Philippines, d'ailleurs, de plus en plus, de manière à ce qu'en fait, ces relations puissent subsister à un niveau, disons, opérationnel établi et sans être contingentes des majorités politiques dans les divers pays. Donc, c'est l'effort qui a été fait par les militaires, par les diplomates ces derniers temps.
Toru Yoshida, votre commentaire.
Oui, je suis complètement d'accord. Ce qui a été dit maintenant, c'est qu'il y a une alternance régulière en Corée du Sud, en sachant que le président sud-coréen a droit à seulement pour un terme et qui n'est pas renouvelable. Donc, quand il y a l'alternance, il y a toujours un changement dans la diplomatie. Et d'un point de vue japonais, en tout cas, quand il y a l'alternance ici, il y a un changement de direction dans la diplomatie, c'est très difficile d'avoir un lien stable, régulier, comme ça avec la Corée du Sud.
Alors, on avance aussi, Toru Yoshida, avec l'alliance entre la Chine et la Russie. Ça, c'est un autre sujet qui est particulièrement ressenti au Japon. Quelles sont les craintes ?
Les craintes, alors, comme ça a été évoqué, il y a un rapprochement aussi maintenant avec la Corée du Nord et la Russie, ce qui pourrait être un élargissement de la ligne de confrontation de la guerre de l'Ukraine envers l'Asie. Mais pour le moment, je pense que le Japon n'a pas vraiment de marge de manœuvre dans toute cette grande bousculement géostratégique dans la région. Et ce qu'on essaye de faire, en tout cas le Japon essaye de faire, c'est que d'avoir ce qu'on appelle des grilles de la sécurité. Et ce que le Japon et les autres pays essayent de faire, d'avoir une grille, plutôt d'avoir des relations multilatérales entre, par exemple, le Japon et la Philippine, le Japon et l'Indonésie, d'avoir des mini-traités avec des rapprochements militaires et d'avoir des entraînements, par exemple, militaires ensemble, d'avoir une éventail plus large pour contrer à la menace de la Chine.
Valérie Niquet, tout cela pour dire que finalement le Japon se trouve aujourd'hui avec des changements sur le plan international, avec des questions qui se posent et sur lesquelles il va falloir prendre des décisions. Je pense notamment aux questions de sécurité, aux questions de défense. Je le disais précédemment, la question du pacifisme japonais, remise en question de l'article 9 de la Constitution. Tout cela a des chances de bouger dans un avenir assez proche.
Alors sur la réforme de la Constitution, je ne pense pas, parce que déjà c'était difficile lorsque le PLD avait une majorité absolue et en théorie aurait pu pousser cette réforme-là, mais on voit qu'il n'a pas pu le faire. Et par ailleurs, même si le Parlement était d'accord pour une réforme de la Constitution, il faut ensuite un référendum avec plus de la majorité dans la population pour soutenir cette réforme. Bien entendu, l'opinion publique japonaise a beaucoup évolué sur les questions de défense, notamment, comme l'avait dit tout à l'heure, en particulier Guibourg de Lamotte, sur l'augmentation du budget de la défense, c'est quelque chose qui est accepté dans l'opinion publique, avec un énorme bémol, c'est qu'en revanche, il n'y a pas de consensus sur la manière de le financer, et que notamment, il y a une très forte opposition à l'augmentation des impôts qui permettrait, le Japon est très endetté, on le sait, qui permettrait de financer cette augmentation du budget de la défense. Donc, on a surtout des exercices d'écriture en faisant passer d'un budget à l'autre certaines dépenses qui permettent d'augmenter mécaniquement ce budget de la défense. Donc, il y a à la fois une prise de conscience des risques, le Japon est dans une zone à risque également, pas uniquement l'Europe, mais on le voit entre la Chine, Taïwan. Avec la Chine, il y a le problème des îles Senkaku qui sont en permanence sous la pression des gardes-côtes et parfois des militaires chinois. Avec la Russie, il y a cette éternelle affaire des îles Ropolyodo, territoire du Nord, mais Kouril en russe, qui ne sera pas résolue. Mais on voit bien qu'il y a une militarisation de la part de la Russie de ces îles. La nouvelle doctrine nucléaire russe a été rappelée au Japon. Les Russes ont expliqué au Japon que si les Américains, par exemple, déployaient des missiles à plus longue portée au Japon, eh bien, la Russie pourrait réagir. Donc, on voit qu'il y a une pression stratégique extrêmement forte sur l'archipel, avec des capacités d'évolution qui restent, en dépit de tout ce qui s'est fait, qui reste modéré dans ce que peut faire réellement le Japon pour assurer sa propre sécurité.
Donc on le retient en guise de conclusion, la pression stratégique forte sur le Japon. Merci Valérie Niquet. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Tokyo, directeur du programme Japon à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, et auteur du Japon en 100 questions, dont une nouvelle édition est à paraître en janvier prochain aux éditions Talendier. Guibourg de Lamotte, professeur de sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon et autrice de la démocratie démocratie au Japon aux éditions ENS, École normale supérieure, et le Japon, un leader discret aux éditions Erol, et Toru Yoshida, que nous avions la chance d'avoir en studio à Paris, professeur de sciences politiques à l'université d'Oshisha à Kyoto. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Mathias Golshani. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.